J'ai du plaisir, moi, cette fois-ci, à parler sur la deuxième aux Corinthiens. Et nous allons donc nous mettre, tout au long de cette semaine, à l'écoute de cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et comme il se doit, quand on étudie un texte biblique, on aime bien le situer dans le contexte. Alors aujourd'hui, je vais particulièrement marquer cette méthode hein, sur laquelle vous avez déjà un peu travaillé hier, vous allez revenir tout au long de cette semaine à OIA. D'ailleurs, dans les lycéens, bah, c'est COCA, c'est à peu près la même méthode, mais on commence par le contexte. Donc on va s'arrêter un peu sur le contexte de l'Épître qui, je crois, a pas mal de choses à nous dire. Alors, d'abord, le nom de l'Épître, 2 Corinthiens. Alors vous allez dire, donc 2 Corinthiens, si on ne réfléchit pas, bah, c'est la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Eh bien, pas vraiment, si on regarde bien le texte biblique, parce que si vous regardez dans la première aux Corinthiens, vous voyez qu'il y a un passage qui nous dit que Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre », ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lettre avant la première aux Corinthiens. Donc ça veut dire qu'il a au moins écrit 3 lettres aux chrétiens de Corinthe. Et peut-être même 4. Pourquoi? Parce que dans la deuxième aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit au sujet d'une précédente lettre. Et il en parle en ces termes, comme je l'ai fait pour ne pas être attristé à mon arrivée, c'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Alors certains me disent, oui, mais ça, il fait référence à la première aux Corinthiens. En fait, quand on regarde la première aux Corinthiens, on s'aperçoit que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il dit là. Donc il est fort probable que Paul a écrit 4 lettres aux chrétiens de Corinthe. Alors j'insiste là-dessus parce que ça montre une chose, c'est que Paul avait une relation assez intense, hein, épistolaire en tout cas, avec cette église de Corinthe qu'il connaît bien parce que c'est lui qui est à l'origine de cette église qu'il a créée en 52. Et donc il va écrire plusieurs lettres, 2 nous sont parvenues. Dans la première, enfin celle qui nous est parvenue sous le nom de la première épître aux Corinthiens, eh bien l'apôtre Paul va répondre à un certain nombre de questions que les chrétiens de Corinthe lui posent. Il va aussi, disons, interpeller cette église qui est traversée par plusieurs courants. Alors, vous avez peut-être pris le temps de lire un peu cette épître. Hein. Moi, je suis Paul, moi d'Apollos. En fait, dans la première aux Corinthiens, on voit que, il y a des problèmes internes à l'église. Alors que dans la seconde, au moment où Paul écrit la deuxième aux Corinthiens, qui va nous intéresser cette semaine, la menace vient plutôt de l'extérieur. De faux docteurs, pseudo-apôtres, qui cherchent à semer le trouble dans l'église. Qui viennent avec des lettres de recommandation et qui vont même remettre en question la parole même de l'apôtre Paul. Une parenthèse, si je peux ouvrir. Dans le Nouveau Testament, vous avez beaucoup de lettres, beaucoup d'épîtres, principalement écrites par Paul, mais pas uniquement. Ça nous enseigne une chose, c'est la relation personnelle. Dieu inscrit avec nous une relation personnelle dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire qu'il veut avant tout avoir une relation personnelle. Et moi, ma prière pour chacun de nous cette semaine, c'est qu'au travers de ces différentes rencontres que nous aurons, eh bien, nous puissions approfondir cette relation personnelle. Les lettres de Paul aux Corinthiens sont des lettres que Dieu a voulu en tout cas inspirer dans la parole pour montrer qu'il veut une relation personnelle avec ses enfants. Alors, si on en vient un peu au contexte plus large de l'Épître, hein, Corinthe, au 1er siècle, est une ville très importante dans le bassin méditerranéen. C'est une ville qui compte à peu près un demi-million d'habitants. Elle avait une réputation assez sulfureuse. Si vous étiez au 1er siècle et vous traitiez une femme de Corinthienne, c'est comme si vous la traitiez de prostituée. Ça vous montre à quel point la réputation de Corinthe était assez sulfureuse, donc les mœurs étaient dépravées. C'est aussi, enfin, en tout cas, les recherches archéologiques ont montré que les Corinthiens au 1er siècle étaient obnubilés par leur statut social. C'est une ville, je dirais, marquée par des oppositions, la société en tout cas corinthienne était assez et même très inégalitaire. Hein. On y trouvait d'un côté les classes supérieures et de l'autre les classes inférieures sans que il y ait de mélange entre les deux. Et puis les Corinthiens étaient aussi friands des joutes oratoires, c'est-à-dire qu'on est à l'époque de l'art de la rhétorique. Il paraît que ça revient un peu à la mode. La rhétorique, c'est l'art du discours. Et on aidait bien, c'était la grande époque de ce qu'on appelle les sophistes, et on aidait bien d'entendre des gens qui parlaient parfois un peu pour ne rien dire, du reste, hein, je ne sais pas si ça peut pas être mon cas, mais le problème c'est qu'ils avaient tendance aussi à manipuler les autres. Bref, on peut dire que les Corinthiens étaient attirés par tout ce qui brille, tout ce qui est fort, tout ce qui impressionne, tout ce qui en jette. Alors forcément, quand de faux apôtres se présentent à eux avec des lettres de recommandations impressionnantes, on aura l'occasion de le voir, un discours séduisant, et cerise sur le gâteau, la capacité de faire des discours, ben les Corinthiens sont plus qu'impressionnés. Hein, et puis ils vont foncer tête baissée. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul décide de prendre sa plume pour leur écrire. Une nouvelle fois, au moins pour la quatrième fois. Parce qu'il se rend compte qu'il y a des problèmes qui se posent à Corinthe, et donc il va ici leur écrire, parce qu'il veut aussi préparer une visite qu'il va leur faire, et qui ne sera sans doute pas une partie de plaisir, parce que dans cette visite, la manière dont il en parle à partir du chapitre 10, surtout au chapitre 13, hein, on s'aperçoit que c'est une visite où il va remettre les pendules à l'heure. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, c'est aussi parce qu'il veut les encourager à participer à une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, et il veut aussi les fortifier dans leur foi. Alors on peut dire que cette épître se décompose en trois parties qui sont assez facilement repérables. Vous avez une première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 7, où l'apôtre Paul parle un peu du passé, et il revient sur certaines accusations qu'on lui fait, notamment les Corinthiens disant « Oui, mais tu nous avais dit que tu viendrais, puis tu ne viens pas, tu n'es pas venu, donc est-ce que ta parole est vraie ?» Tu dis « Oui, mais c'est non, bref, etc. » Donc il revient un peu là-dessus, et il va aussi défendre son ministère qui est soumis à de sérieuses attaques. Donc c'est une partie qui est plutôt apologétique. Hein, apologétique, c'est un mot que vous allez souvent entendre au GBU, c'est la défense de la foi, et en défendant, je dirais, son message, eh bien, l'apôtre Paul défend l'Évangile. Et puis il y a une deuxième partie, qui est un peu plus courte, les chapitres 8 et 9, où l'apôtre Paul va parler de ce qui retient son attention au moment où il écrit, c'est-à-dire cette fameuse collecte hein, qu'il organise pour les chrétiens de Jérusalem, et il va en profiter pour donner un enseignement sur la libéralité, sur la générosité. Donc c'est un moment, une partie plus exhortative qui concerne le moment présent. Et puis la troisième partie, il tourne son regard vers l'avenir, et puis là ça va concerner quelque chose d'un peu plus délicat. C'est la fameuse visite disciplinaire qu'il compte faire à l'église de Corinthe, et c'est un peu l'opération déminage, et il va un peu préparer le terrain pour cette partie, pour cette visite, donc c'est une section qui est un peu plus polémique. Alors tout au long de l'épître, l'apôtre Paul va développer un thème qui va quand même surprendre sans doute ces Corinthiens qui sont en quête d'extraordinaire. Alors, il faut bien retenir ça. Hein. Les Corinthiens au premier siècle, ce sont des gens qui, un peu comme aujourd'hui d'une certaine manière, ils veulent le sensationnel. Ils aiment tout ce qui brille. Ils aiment ce qui est fort, ce qui impressionne. Puis alors ils se disent, l'apôtre Paul il va nous écrire sans doute quelque chose qui va nous impressionner. Paul va leur dire, Dieu choisit de manifester sa puissance à travers la faiblesse de ses serviteurs. On est plutôt mal barré. Hein. À commencer par sa faiblesse à lui, et Paul va mentionner un certain nombre de problèmes qu'il rencontre dans son ministère, la persécution, il va même parler de son manque d'éloquence, un peu extraordinaire, son écharpe dans la chair, etc. Bref, tout ce qui aurait dû le disqualifier aux yeux des Corinthiens pour exercer son ministère d'apôtre. Et ce thème, qu'on pourrait résumer par la force dans la faiblesse, va aller crescendo. C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus présent dans l'épître. Et c'est un peu ce qu'on va voir tout au long de cette semaine. L'apôtre commence dès la prière d'introduction qu'on va lire dans un instant. Il va introduire ce thème dans cette prière d'introduction. Et puis il va développer ce thème à partir d'images, ce qui est très pédagogique. Parmi ces images, il y a celle du vase de terre, d'argile, qu'est l'apôtre, dans lequel est contenu le trésor de l'Évangile. Et puis il va poursuivre par des exemples. Là aussi, c'est très pédagogique. Il va, par exemple, prendre l'exemple des chrétiens de Macédoine, qui dans leur extrême pauvreté, ça c'est leur faiblesse, vont participer avec générosité, ça c'est leur force, à cette collecte de Jérusalem. Ou même l'exemple du Christ, hein, qui de riche s'est fait pauvre, pour que par cela nous devenions riches en lui. Mais surtout, c'est dans son témoignage personnel, vers la fin de l'Épître, que ce thème résonne avec le plus de force, parce que c'est notamment au chapitre 12, quand il va parler de son écharpe, donc quelque chose de très intime et personnel, et c'est la seule fois où il en parle de manière aussi directe, qu'il va partager avec les Corinthiens, hein, qu'il connaît bien, cette réponse que Dieu lui fait, à grâce suffit, car... Vous connaissez ce verset, hein, voilà. On le connaît presque tous par cœur. Et donc, c'est là, effectivement, où ce thème apparaît avec le plus de force. Alors, comme il se doit, hein, tout épître commence par les salutations d'usage, hein, dans laquelle l'auteur se présente. C'est pas le cas de tous les épîtres, mais en tout cas, pour celle de Paul, c'est le cas. Et puis, il présente aussi les destinataires, l'église les chrétiens de Corinthe, mais aussi tous les chrétiens dispersés dans l'Achaïe. Donc c'était une lettre qui devait être lue aussi un peu à droite, à gauche. Et puis vient donc cette prière que je vais lire donc à présent au chapitre 1er, des versets 3 à 11. Après donc les formules d'introduction et de salutation. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Alors, cette prière d'introduction est assez commune dans les épîtres. Pas d'ailleurs que dans les épîtres bibliques, hein, aussi dans les épîtres, le mode épistolaire à l'époque était assez courant. Et cette prière d'introduction, cette prière d'action de grâce, fait office un peu de table des matières. Pas des tables des matières, pourtant l'épître est assez longue, hein. Parce que l'apôtre Paul en profite toujours pour introduire les idées-forces qu'il va développer tout au long de son épître. Donc c'est en écoutant cette prière, hein, les destinataires, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, eh ben, la lettre était lue, donc elle était entendue de vive voix. Hein. Ben, les destinataires étaient préparés à entendre le thème principal. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'arrêter d'abord sur ce passage, parce que si le thème, la force dans la faiblesse, est au centre de l'épître, ce thème doit être présent dans ces premiers versets. Donc on va vérifier si c'est effectivement le cas. Et on va donc mettre un peu en pratique cette méthode OIA au travers de ces, l'étude de ces quelques versets en nous arrêtant donc d'abord sur l'observation. Qu'est-ce qu'on observe dans cette épître? Ben d'abord, on observe que c'est une prière qui c'est une prière d'action de grâce qui est un peu sur le mode, vous savez, des psaumes, hein, « Béni soit Dieu ». Mais en même temps, vous l'aurez noté à l'écoute de cette prière, c'est aussi une prière au cours de laquelle l'apôtre Paul va parler de lui-même, va donner un peu son témoignage, il va faire référence, je vais revenir sur cet incident ou cette épreuve particulière qu'il a vécue en Asie. Un peu d'ailleurs comme les psaumes. Si vous êtes habitué à lire les psaumes, vous verrez que le psalmiste ne se contente pas de prier Dieu comme un Dieu lointain, mais il parle aussi de ses problèmes à lui. Eh bien, Paul fait de même, et ça donne la tonalité de l'ensemble de l'épître qui se veut être une épître très, j'insiste beaucoup là-dessus, très personnelle. Pas tout d'avoir des connaissances dans la tête. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est l'une des épîtres les plus autobiographiques de l'apôtre Paul. Et j'espère que cette épître vous donnera envie de mieux connaître Paul, non pas comme quelqu'un de relou, comme on dit, non pas comme quelqu'un de dur, mais vraiment comme quelqu'un de proche. La deuxième chose qu'on observe dans cette prière, c'est un mot qui revient souvent. Alors, suivant les versions, ça ne va pas forcément être le même. Ici, je vous ai mis à l'écran le verset 4, et vous voyez donc ce mot, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce au réconfort. En fait, dans le grec, c'est le même mot. Hein. Et vous l'avez aussi dans les autres versets. Ce mot est le même mot que Jésus va utiliser dans... enfin, en tout cas, c'est la même racine que celui que Jésus utilise dans Jean 14, 15 et 16, quand il va parler du paraclet, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient pour encourager. Alors, c'est là aussi traduit différemment, pour exhorter, pour défendre. Également. Alors il faut dire, vous avez compris hein, dans la lecture de ces versets, il est souvent question de souffrance, de détresse, d'épreuve. Si vous avez une vieille version de tribulation. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'apôtre Paul va utiliser un vocabulaire très riche pour parler de toutes les facettes de cette souffrance. Mais au verset 8, l'apôtre Paul va faire état d'une épreuve particulièrement intense qu'il a vécu à un moment donné de son ministère, lors d'un de ses voyages missionnaires dans la province d'Asie. Alors, il ne faut pas penser à l'Asie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Hein. C'est une province de l'Empire romain dans l'Asie mineure. Une épreuve particulièrement intense, puisqu'il dit lui-même, j'ai failli mourir. Donc, ce n'était pas la petite, je dirais, la petite épreuve hein, qu'on a parce qu'une guêpe nous a piqué. Hein. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Hein. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas, en effet, que vous laissez ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà même de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Donc c'est une épreuve particulière. Mais surtout, l'apôtre Paul insiste sur quelque chose. Nous ne voulons pas vous laisser ignorer. Dès le début de cette lettre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul commence cette lettre en parlant de ce problème-là? Eh bien justement, parce qu'il veut montrer que la puissance de Dieu, qui s'exprime ici par un acte de délivrance, se manifeste dans la faiblesse extrême où l'apôtre Paul pense avoir signé son arrêt de mort. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera encore. Au verset 9, c'est vrai que l'apôtre Paul parle qu'il avait accepté son arrêt de mort. Autrement dit, Dieu n'a pas épargné son serviteur de l'épreuve, mais il a intervenu dans l'épreuve, c'est-à-dire dans sa faiblesse, pour l'en délivrer. Seulement, force est de constater, vous en conviendrez, je pense, avec moi, dans votre vie personnelle, que Dieu n'enlève pas toujours l'épreuve de devant nous. Dieu ne nous délivre pas toujours de l'épreuve. On aimerait que ça marche toujours comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas pour vous, je viendrai vous voir, vous me direz. Pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Et pour l'apôtre Paul, il ne reste non plus. Parce que la plupart du temps, Dieu se manifeste par sa présence. Une présence qui rassure, une présence qui réconforte, une présence qui console et qui encourage. Et c'est aussi l'expérience de l'apôtre Paul, et je reviens ici sur ce verset 4, il nous réconforte, on l'a lu tout à l'heure, dans nos détresses, c'est la présence de Dieu qui nous réconforte pour que nous puissions réconforter, etc., ceux qui se trouvent dans la détresse. La consolation divine est d'ailleurs beaucoup plus présente dans cette prière que la délivrance. Elle est même au cœur de cette prière témoignage, hein, on l'a vu, le nombre de fois où ce terme « consoler » apparaît. En fait, il apparaît 10 fois en l'espace de 5 versets, dans les versets 3 à 7, et ce mot en grec apparaîtra 28 fois tout au long de l'épître. Donc c'est un thème qui est vraiment au cœur même de cette épître. Alors ça, c'est un peu pour l'observation, un peu rapide, de cette prière d'introduction. Maintenant, j'aimerais en venir un peu à l'interprétation. Qu'est-ce qu'on apprend sur la souffrance? Vous savez, c'est une question que souvent, alors je ne sais pas si on se la pose toujours, mais en tout cas on nous la pose, hein, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Mais aussi on se la pose à soi, hein, quand la souffrance concerne les autres, on ne se la pose pas trop. Puis quand ça nous touche de près, c'est pourquoi Dieu permet la souffrance? Et ce passage, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que c'est l'un des passages où on voit le plus clairement ce qu'on pourrait appeler la théologie de la souffrance chez l'apôtre Paul. Et donc, j'aimerais brièvement vous donner quelques éléments de réponse qu'on trouve ici dans cette prière d'action de grâce. Et je le ferai aussi en y associant des questions d'application. La première chose sans doute que l'on apprend, c'est que la souffrance, l'épreuve, hein, souffrance sans ça, endurée avec patience, permet aux chrétiens d'expérimenter la consolation de Dieu. Alors c'est vrai que dans le contexte de l'époque, la souffrance, en tout cas pour Paul, était souvent liée, et il le dit tout au long de sa lettre, à une forme de persécution, une forme d'opposition. Mais ici, Paul se situe dans la continuité de l'enseignement de Jésus. Vous n'avez pas dans le Nouveau Testament l'enseignement de Jésus et puis l'enseignement de Paul qui raconterait autre chose. Il y a vraiment une profonde unité entre les deux. Pensez à cette parole de Jésus dans ce qu'on appelle les béatitudes, hein, les Matthieu, hein, heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera. La souffrance qui apparaît d'abord comme un sujet de tristesse parce qu'elle nous place face à nos limites, je ne suis pas tout puissant. Elle nous place face à notre vulnérabilité. J'ai mal. Elle nous place face à notre fragilité. Eh bien, cette souffrance, quelle qu'elle soit, peut devenir le lieu privilégié où Dieu va nous parler, où Dieu va se révéler à nous, où Dieu va manifester sa présence de manière toute spécifique par sa consolation. C'est là où on apprend à faire l'expérience du Dieu proche. Et la question ici d'application, j'allais dire, s'impose. Quand nous traversons un temps d'épreuve, arrivons-nous à y voir une occasion d'expérimenter la présence de Dieu de manière particulière? C'est-à-dire, est-ce que nous nous ouvrons à cette présence? Ou est-ce que nous restons à l'épreuve elle-même? Quand l'épreuve est intense, et là c'était le cas particulièrement pour Paul, en tout cas pour l'une d'entre elles, on ne voit que ça. On a l'impression qu'il n'y a que deux choses qui existent, moi et l'épreuve. Mais est-ce que j'arrive à y faire la place pour que Dieu soit présent? Et ça c'est la foi, par la foi. Par la foi je peux expérimenter cette présence de Dieu. La deuxième raison, élément de réponse, pourquoi la souffrance? Eh bien, parce que la souffrance, en tout cas pour le chrétien, ici pour l'apôtre Paul, conduit aussi l'apôtre à s'identifier au Christ. On voit notamment dans ce verset 5, quand l'apôtre Paul dit « De même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. » Alors, là, l'apôtre Paul parle des souffrances que le Christ a subies pour nous et qui se poursuivent chez ceux qui, comme Paul, annoncent l'Évangile. Et Paul fera souvent référence d'ailleurs à cette souffrance liée à l'annonce de l'Évangile tout au long de son épître, hein, notamment par rapport aux persécutions. Alors, tout de suite, j'aimerais dire que ces souffrances-là, parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation dans l'histoire de l'Église, surtout du côté catholique, hein, ces souffrances-là n'ajoutent rien au sacrifice de Jésus-Christ, qui reste pleinement suffisant pour nous sauver. Ici, ces souffrances, et c'est ce sur quoi l'apôtre Paul veut insister, il y a vraiment un enseignement aussi pour nous, hein, ces souffrances sont liées à l'annonce de l'Évangile. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament nous avertissent des difficultés que rencontreront ceux, celles et ceux qui annoncent l'Évangile. Partager l'Évangile, c'est toujours un défi. J'espère que c'est une joie, que c'est un bonheur. Mais si je pense que je vais avoir en face de moi tas de gens qui vont dire « Ah ben oui, c'est super !» C'est pas l'excellence qu'on fait toujours. Hein. Non seulement on se heurte à l'indifférence, mais on peut aussi se heurter à l'opposition. On peut se heurter à des gens qui vont s'en prendre directement à nous, je dirais personnellement à nous. Il y a un combat spirituel qui se livre chaque fois que j'annonce l'Évangile. On l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure hein, dans un des chants. C'est un peu comme si j'allumais une lumière qui va faire quoi ? Ben, qui va chasser l'obscurité, qui va chasser les ténèbres. Et donc, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt. J'allais dire à payer le prix. Non pas le prix que le Christ a payé pour moi une fois pour toutes, hein, mais le prix de l'annonce de l'Évangile. Que je ne sois pas surpris ou découragé quand il y a des embûches. C'est le Christ qui est visé. Et c'est pas moi personnellement. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 15, verset 21, quand il parle aussi de ses persécutions à venir, quand il s'adresse à ses disciples, c'est à cause de moi, dit Jésus, à ses disciples, qu'ils agiront ainsi. La question est là. Sommes-nous bien conscients du combat spirituel qui se livre quand nous partageons l'Évangile ? Sommes-nous conscients que c'est le Christ qui est visé plus que nous ? À partir du moment où j'ai pris conscience de cela, je prends la distance. Quand l'attaque est personnelle, je prends la distance. Car je sais que ce n'est pas moi qui suis visé, mais c'est le Christ qui est en moi. Et quelque part, je sais que c'est aussi normal. Du reste, moi, personnellement, je préfère toujours quelqu'un qui est un peu dans ce côté « je cogne » que dans le côté « je suis indifférent ». Parce qu'au moins, s'il réagit, c'est que ça l'a touché quelque part. La troisième chose que l'on peut apprendre dans ce texte, c'est que la souffrance oblige le chrétien à se confier en Dieu seul. Comme il est dit dans ces versets 9 et 10. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne plus placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui, en Christ, cette espérance qui nous en délivrera encore. Force est de constater, je crois, dans notre vie, que c'est souvent quand il n'y a plus rien à faire et que la situation semble tout à fait désespérée, que nous plaçons notre confiance en Dieu. Parfois, malheureusement, il faut en arriver là. Pourquoi ? Ben parce qu'on n'a plus d'autre choix. On est un peu dans le fond du trou, on n'a plus d'autre choix de crier à Dieu. On ne peut plus se raccrocher à aucune branche, parce qu'elles sont toutes cassées. Hein ? On a d'autres choix que d'autres choix, plus que d'autres choix que de crier à Dieu. Eh bien, c'est précisément ici ce que Paul a fait dans cette expérience-là. Il n'a eu d'autre choix que de placer sa confiance en Dieu. Et on note dans ce passage que l'apôtre Paul vit l'instant présent dans une perspective d'éternité. Il parle de la résurrection. Sa foi en la résurrection des morts, comme je pense c'est aussi notre foi, n'est pas une foi pour après la mort, comme parfois on l'a. On confesse, oui, je ressusciterai les morts. Non, c'est une foi qui le concerne dans le présent, dans l'instant présent. C'est une foi qui lui permet de faire face à la réalité présente, réalité douloureuse, avec sérénité, parce que il vit avec cette espérance. Et je crois que c'est là où il y a une question aussi d'application pour nous. Vivons-nous l'instant présent dans une perspective d'éternité ? C'est pas le tout d'avoir, je dirais, des éléments de foi. C'est pas le tout de croire que Christ et le Fils de Dieu, comme vous allez encore l'entendre cette semaine, pour ceux qui vont suivre, c'est qu'il est venu, qu'il est ressuscité. Si ça reste dans la tête, pas faire grand-chose. Comment est-ce que je le vis ? L'apôtre Paul ici me donne un exemple. J'ai failli mourir, je croyais, j'avais signé mon arrêt de mort. Je m'en suis remis à Dieu qui ressuscite les morts. vivre l'instant présent dans cette perspective d'éternité. Un peu plus loin, au chapitre 4, verset 17, de la deuxième aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrira que nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurmontable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors je reviendrai sur ce passage ces prochains jours, mais je m'y arrête ici parce que justement l'apôtre Paul y enseigne que par-delà la réalité visible qui peut s'avérer parfois douloureuse mais qui reste temporaire, il y a une réalité invisible qui, elle, est éternelle, sur laquelle je peux m'appuyer. Comment est-ce que je m'y appuie? Eh bien, je m'y appuie par le regard de la foi. Quatrième élément de réponse, c'est que la consolation divine équipe le chrétien qui souffre, car il peut à son tour mieux consoler ceux qui traversent les épreuves et donc mieux remplir son ministère. Quelqu'un qui traverse un deuil et qui a expérimenté la consolation de Dieu est mieux placé pour entendre quelqu'un qui traverse une épreuve et lui dire comment Dieu est intervenu dans sa vie. Le témoignage de celui qui traverse l'épreuve avec foi est d'ailleurs souvent plus pertinent que le témoignage de celui qui peut dire « Ah ben le Seigneur m'en a délivré !» Pourquoi ? Parce que celui qui traverse l'épreuve avec foi peut témoigner qu'il a persévéré, que Dieu était là, que Dieu l'a consolé. Tandis que l'autre, il peut témoigner que simplement Dieu est intervenu. Alors vous allez dire que c'est déjà beaucoup, mais c'est beaucoup plus difficile de s'y identifier. Et nous, chrétiens, nous traversons les épreuves avec la même fragilité que ceux qui nous entourent, la même vulnérabilité que ceux qui nous entourent. Il y a une grande différence. C'est que nous le traversons avec foi, en comptant sur Dieu. J'ai eu l'occasion d'exercer le ministère d'aumônerie dans un hôpital à l'étranger pendant quelques temps. Et j'étais frappé de voir que quand il y avait un décès, on appelait l'aumônier pour être présent. Et j'étais frappé de voir la différence qu'il y avait entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Il y avait la même douleur, la même vulnérabilité. Mais face à la mort, il y avait une espérance que certains avaient et d'autres pas, une sérénité que certains avaient et d'autres pas. Alors, on fait signe de conclure, mais je veux terminer par un mot sur la prière, parce que vous allez me dire, la prière dans tout ça. Pareil qu'aujourd'hui, on ne prie pas assez. La prière dans tout ça. Et là, l'apôtre Paul en parle à la fin. Il en parle d'une certaine manière, je trouve ça assez intéressant. Il dit, oui, nous avons en lui cette espérance, qui nous en délivrera encore, et vous y contribuez vous-même par la prière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prière est importante, parce que ici Paul parle à la fois de la prière, mais de la réponse à la prière par l'espérance qui le fortifie dans sa foi. La prière de l'Église est importante, elle est même essentielle. Mais ici elle est présentée comme une grâce, comme un cadeau. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais appuyer comme un bouton en disant « Seigneur, j'ai prié, hein, tu dois me répondre ». Non, c'est quelque chose que je dois recevoir, quelle que soit cette réponse. Cette réponse dans la souffrance, ça peut être ma présence, la présence de Dieu qui vient consoler, ça peut être la délivrance, ça c'est l'affaire de Dieu. Mon affaire à moi, c'est de faire confiance à Dieu et de recevoir la réponse qu'il me donne comme un cadeau de sa part. Ainsi, Paul choisit de commencer son épître par une prière dans laquelle il témoigne que Dieu l'a fortifié dans la foi, soit par la consolation, soit par la délivrance. Cette force dans la faiblesse sera au cœur de l'épître. C'est dans notre faiblesse que Dieu nous rejoint. Autrement dit, et je termine là, l'Évangile ne nous garantit pas une vie sans épreuve. Ce que l'Évangile nous garantit, c'est une force dans l'épreuve. Cette force, c'est Dieu.